C'est Bezrat Hashem, notre deuxième chiour sur les halakhot de Ona'a. Donc je rappelle, Ona'a, on avait expliqué qu'à la base, les dinim de Ona'a dans le Perek Azahav, c'était principalement dans le business. Ça veut dire vendre quelque chose à un prix qui est exorbitant, ou bien ça peut être aussi du côté de l'acheteur. Du côté de l'acheteur, ça veut dire pousser une personne à te vendre un objet beaucoup moins cher que ce qu'il vaut réellement. Ça, c'est à la base des dinim de Ona'a. Ça veut dire avoir trompé quelqu'un, avoir abusé de quelqu'un dans les affaires. Ça, c'est à la base du dinim de Ona'a. Mais on a expliqué la semaine dernière, dans la Mishnah qu'on a commencé, que la Mishnah dit que de la même manière qu'on peut faire Ona'a dans les affaires, on peut faire Ona'a aussi dans les paroles. Ça veut dire quoi? On a donné des exemples. Par exemple, je vais voir quelqu'un, je lui dis combien il vaut cet objet. Je lui fais croire que je vais l'acheter. Quand je lui fais croire, je fais miroiter, etc., je vais jusqu'au bout et à la fin, je lâche. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Ona'a. Pourquoi ça s'appelle Ona'a? Parce que j'ai abusé de sa personne. Je lui ai fait croire que j'allais acheter. Alors qu'en vérité, je n'allais pas lui acheter. Ça s'appelle Ona'a et c'est assour.
C'est pour les juifs, que pour les juifs?
Alors pour l'instant, on parle des juifs. Il y a aussi d'autres exemples qu'on va parler. Il y a encore des feuilles ici. D'autres exemples de Ona'a. Et aujourd'hui, on va parler principalement sur les relations qu'on a avec sa femme. Par exemple, dire une phrase qui va blesser sa femme. On va voir plus tard dans quel cas. Ça rentre aussi dans le problème de Ona'a. Alors on y va. Amar Rabbi Yochanan, je suis à la quatrième grande ligne. À la fin, la quatrième grande ligne. Vous avez? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Voilà, Rabbi Shimon ben Yochai, on y vient. Donc, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Gadol onaat dvarim me onaat mamon. Blesser quelqu'un avec des paroles, c'est plus grave que de le blesser financièrement. Pourtant, c'est un scoop, parce que nous, au début, comment on a eu dans la Mishnah? La Mishnah a dit, de la même manière que c'est interdit de blesser financièrement, hein, c'est interdit de blesser par des paroles. Donc, dit comme ça, on comprend que c'est plus grave financièrement. Seulement, de la même manière que c'est interdit, c'est aussi interdit par des paroles. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pousse plus loin, il dit non. Il dit, blesser quelqu'un par des paroles, c'est plus grave que blesser quelqu'un financièrement. Pourquoi? Il explique pourquoi. Il dit, alors, Gadol, Sheze Neymarbo Viyareta Melokecha, Veze Lo Neymarbo Viyareta Melokecha. Il dit, c'est très simple. Il dit parce que, quand la Torah nous dit que tu ne devras pas blesser quelqu'un financièrement, la Torah n'a pas rajouté une injonction supplémentaire et tu craindras de ton Dieu. Alors qu'on l'a étudié la semaine dernière, quand la Torah nous dit velotonu shetamito dans le pasuk que vous avez en haut de la page, le pasuk qui nous parle de blesser quelqu'un par des paroles, la Torah a rajouté veyareta me elokecha, tu craindras ton Dieu. Donc de là, Rabbi Shimon bar Yochai, il te dit, c'est pas par hasard. Parce que dans le pasouk qui te parle de blesser quelqu'un par des paroles, la Torah a dit, et tu craindras ton Dieu. Ça veut dire que du style, pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus grave. Ça, c'est l'approche de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que c'est plus grave de blesser quelqu'un par des paroles que de le blesser financièrement. Ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche de Rabbi Elazar. Alors, vous savez qui c'est Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Et là, dans ce cas-là, on va voir qu'en vérité, Rabbi Elazar, il va expliquer ce que son père voulait dire. Parce que c'est pas clair ce que son père dit. Son père, excusez-moi du terme, mais il a botté en touche. Je veux dire, il a dit, c'est plus grave parce que le pasouk a dit, tu craindras ton Dieu. Mais ça n'explique pas pourquoi c'est plus grave. Pourquoi c'est plus grave de blesser quelqu'un par des paroles que financièrement? Si je vous pose la question à vous, d'après vous, lequel est plus grave? Quand j'ai blessé quelqu'un dans les affaires ou quand j'ai blessé quelqu'un par des paroles?
C'est une sorte très compliquée, très vague. Hein.
Pourquoi?
Parce que blesser quelqu'un par des paroles, des fois on est obligé de faire des remontrances.
Non, je ne parle pas de ça, On n'a pas la semaine dernière. Je parle de blesser quelqu'un, ça veut dire quelque chose qui n'est pas dans le cadre du remontrance. Blessé. Oui, je suis blessé. Oui.
L'étude, la réparation est beaucoup plus
difficile. Ça peut être un cas aussi simple que je lui fais croire que je vais lui acheter, je le fais miroiter, etc. Et à la fin. Dès qu'on arrive au moment de la signature, je dis bah désolé, je veux pas l'acheter.
Et ça c'est blessé ça.
Non,
ça, c'est... tu fais croire à ta femme que tu vas lui acheter un cadeau et tu lui achètes pas.
J'ai pas encore parlé de la femme. Pardon, j'ai pas entendu. C'est ça, c'est comme la Mishnah ça.
C'est ça.
La Mishnah a dit lo yomar lo bekama.
Alors des fois tu sais pas que tu.
Non, il y a ça, il y a d'autres exemples aussi, mais ça c'est le premier exemple de la Mishnah.
Délibéré, ça que je comprends pas.
Tu sais pas que tu blesses des fois.
D'accord.
Là, je ne parle pas de ça.
Là, je parle d'un cas dans lequel je vais le chercher, ça veut dire je lui fais croire que je vais acheter, je le pousse jusqu'au bout. On avait donné un deuxième exemple, un Baal Teshuva. Un Baal Teshuva qui vient te faire une remarque, vous rappelez? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, ah mais attends, une bouche qui a mangé des reptiles, elle va venir me faire des remarques comment comprendre la Torah? Ah, tu l'as tué, le gars.
Quand
j'espère, pour vous. Alors. Donc en tout cas, Rabbi Shimon Bar Yochai n'explique pas pourquoi. D'accord.
Une bouche t'est rangée des reptiles.
Non.
Il n'a pas expliqué. Non, il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué. C'est Rabbi Elazar son fils qui va expliquer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a simplement dit, il a dit, je pense que c'est plus grave parce que dans le passage qui parle de blessé par des paroles, Dieu a rajouté, c'est écrit, veille arrêter mais le cœur, tu crains ton Dieu. Mais ça n'explique pas pourquoi c'est plus grave. Ça, c'est Rabbi Elazar qui va expliquer. Son fils. Mais Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar, il dit, Zébe Goufo, Vezébe Mamono. Il dit, ça n'a rien à voir. Il dit, quand tu blesses quelqu'un dans son argent, c'est son argent, c'est son patrimoine, mais tu l'as pas touché dans son corps. Tu n'as pas touché son corps. Quand tu blesses quelqu'un par des paroles, d'accord, tu as porté atteinte à son corps. Et alors? Alors là, il y a un autre rave qui rajoute encore, en vérité, le commentaire explique que ça, c'est, chacun, il rajoute une couche sur l'autre, c'est pas une marloquette. Notre avis qui dit quoi? Il dit, Rabbi Shmuel ben Nachmani Omer, Rabbi Shmuel ben Nachmani, il dit, Zé nitan le ishavon, ve zé le nitan le ishavon. Il dit, c'est très simple. Il dit, quand tu blesses quelqu'un par de l'argent, tu pourras toujours rembourser cet argent. Mais quand tu blesses quelqu'un, dans son corps, est-ce que tu pourras récupérer la trace, que tu pourras réparer la trace que tu as laissée en lui? D'accord? Rabbi Shmuel ben Nachmani, il dit, tu peux pas récupérer. Tu pourras jamais revenir comme c'était avant. On ne pourra jamais enlever la trace comme si rien s'est passé. Donc vous voyez, on a eu trois étapes. On a eu le premier avis, d'accord, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a dit qu'en vérité, c'est la Torah qui a rajouté l'injonction Viareta Melokecha. Dessus, on a eu Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a rajouté quoi? Qui nous a dit que finalement, pourquoi c'est plus grave de blesser quelqu'un par des paroles? Parce que là, on porte atteinte à son corps, et pas seulement à son patrimoine. Et on a eu une troisième couche qui a dit que quand tu portes atteinte au patrimoine de quelqu'un, tu pourras toujours le rembourser. Même si c'est grave, mais tu pourras toujours le rembourser. Quand tu portes atteinte au corps de quelqu'un, quand tu l'as blessé avec des paroles, la marque ne partira jamais. Maintenant, écoutez bien la suite. Je vous préviens, ça va chauffer. Alors, Tané Tana Kame de Rav Nachman Bar Yitzhak. Il y a une fois, un Tana, donc enfin, Tana pas dans le sens un maître de la Mishnah. Là, Tana, il faut comprendre un élève qui a enseigné Kame de Rav Nachman Bar Yitzhak devant Rav Nachman Bar Yitzhak. Écoutez ce qu'il a dit. Kol amalbin pene chavero barabim, tout celui, alors littéralement, on dit celui qui fait blanchir la face de son ami. D'accord? Donc, ça c'est la traduction littérale. On a compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a fait honte. Keilu chofer damim, c'est comme si, qu'il a tué. Alors, quel rapport? Je veux dire, la Gemara se pose la question, elle dit, mais quel rapport? Tu me dis que c'est grave. Mais pourquoi tu me dis c'est comme si qu'il a tué? Dis-moi, c'est comme si qu'il a mangé du cochon, c'est comme si qu'il a mangé du chametz à Pessah. D'accord? Alors, la Gemara explique, elle dit tout de suite, la réponse que vous connaissez, mais attention, on aura un tosfot dessus. Elle dit, Amarle. Donc ça, c'est quelqu'un qui a enseigné devant Rav Nachman Bar Yitzhak. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas comme aujourd'hui les textes écrits. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qui venaient au Beit HaMidrash, et très souvent, t'avais une personne qui venait d'une autre yeshiva, on dit, ah bah tiens, viens, raconte-nous ce que tu connais. Et très souvent, on apprenait de nouvelles choses. Donc, on a ici un élève qui débarque devant Rav Nachman Bar Yitzhak, et qui lui dit, Rabbi, je vous apprends quelque chose que j'ai entendu. Celui qui fait blanchir la face de son ami, c'est comme si qu'il faisait couler son sang. Et Rav Nachman Bar Yitzhak qui réplique, il dit, c'est très juste ce que tu dis, je vais te dire pourquoi. Amarle, il lui a dit, Shapir Kaamrat. Tu dis bien, ce que tu dis c'est bien. Pourquoi? Des chazin alé, parce que moi je vois, quand on fait honte à une personne, qu'est-ce qui se passe? Azil Sumka, Veati Rivra. Que le rouge s'en va et le blanc arrive. Or le rouge c'est quoi? C'est le sang. Donc quelque part c'est comme si tu l'as fait couler son sang. Alors sur ça je vais vous faire un petit spot. Regardez, on va le faire quand même celui-là. On va prendre la colonne de droite et vous prenez le chapitre qui commence par des Azil. C'est souligné. Des Azil Sumka Veati Rivra. On a dit que pourquoi c'est considéré comme si on tuait quelqu'un? Parce qu'on a dit quand tu blesses quelqu'un, le rouge s'en va et le blanc arrive. Tout ça, ça pose une question très simple. Il dit mais Oumash et Mahadim Batrila, mais il dit mais on voit que concrètement, quand on fait honte à quelqu'un, il rougit.
Oui, c'est vrai, je pense que rouge.
Donc, je veux dire, même quand on s'imagine quelqu'un à qui on a fait honte, c'est quoi la première réaction qu'on voit dans son corps? Il rougit. Alors qu'est-ce qu'il me raconte blanchir? Ça veut rien dire. Donc s'il rougit, ça veut dire qu'au contraire, tu lui donnes plus de sang. Donc c'est pas comme si tu le tues. Ça c'est la question de Tosfot. Donc Tosfot il pose une question, il dit a priori on comprend pas ce que la Gemara dit. Tu me dis que quand on blesse quelqu'un il blanchit. Non, tu m'as dit le rouge s'en va et le blanc vient. Pas du tout, c'est le contraire que nous on voit physiquement.
Non, des fois il blémit.
Attendez, Tosfot répond. En général quand on blesse quelqu'un, tout de suite la réaction première qu'on voit, quelqu'un qui a honte il devient rouge tout de suite.
Oui, et la
seconde. D'abord les oreilles, c'est moi par les oreilles toujours, les oreilles là, elle commence là. Après.
Les joueurs de poker savent très bien.
Il y a des gens qui arrivent à l'arrêter. Il y a des gens qui arrivent à l'arrêter là, mais normalement ça prend pas. D'abord les oreilles, après progressivement, et après le blanc arrive. Mais tu sais, je me dis, mais pourquoi tu me parles de rouge, de blanc? C'est rouge. Réponse de Tosfot. Les filles chez Adami mit asfin livroir. Et tu dis, tu sais en vérité pourquoi la personne devient rouge? C'est parce que le sang est en train de se... Non, au contraire. Le sang est en train de se ramasser, entre guillemets. Il est en train de se concentrer, livroir pour s'enfuir. C'est-à-dire que moi, quand je le vois, je crois qu'il a rougi. Je crois que son sang... Il a eu plus de sang. En vérité, c'est le contraire. C'est le sang de la tête qui est en train de se concentrer pour partir. Et donc, du coup, en vérité, toi, tu crois qu'il rougit, mais il est en train de blanchir. Le processus du blanchissement, si on peut appeler ça, du blanchiment de la personne, a déjà commencé. Ah, c'est la réponse de Tosfot. Moi, je le vois, il est rouge. Mais en vérité, tu attends quelques secondes, tu verras qu'il va blêmir. Donc, de là, on apprend que celui qui blesse son ami, c'est comme si qu'il le tuait. D'ailleurs, on le voit, c'est qu'il enlève son sang. Faire enlever le sang de quelqu'un, c'est comme ça peut ressembler à tuer. Alors maintenant, écoutez bien. Amarle, Abaye le Rav Dimi. Abaye, il a posé la question à Rav Dimi. Il lui a dit, Bema Rava, Bema Izeire. À l'ouest, à quoi ils font attention? Alors là, on est dans la Gemara du Talmud de Babylone. Donc si vous prenez l'ouest de Babylone, on tombe sur quoi? On tombe sur Israël. Donc, à l'époque, bon, c'était comme ça leur manière de parler. C'était pas péjoratif, hein. Mais quand ils disaient à l'ouest, ça veut dire bon, à l'ouest, de quoi on parle? C'était l'expression, à l'ouest. Comme ça qu'on. D'ailleurs, ils priaient vers l'ouest. Donc, non. Oui, bah, non, parce qu'en français, quand on dit à l'ouest, être à l'ouest, c'est péjoratif.
C'est la gamme d'en dessous, quand même.
Oui. Bien sûr, l'étude de Babylone était beaucoup plus élevée.
C'était Rav,
tout de suite. Parce que la Torah était à Babylone. On dit que la Torah était exilée. D'ailleurs, la même Gemara, je ne sais plus dans quel traité c'était, j'ai oublié, qui nous donne les Asara Galuyot. Il nous donne les 10 exils que la Torah a fait. Comment on a commencé du Rouchalaïm, après on est passé à Yavne, après on est passé... Elle nous donne les 10 étapes jusqu'à qu'on arrive à Babel. Et Babel, c'était la dernière étape. Donc, on y va. Il y avait encore les Talmidei Chachamim à Jérusalem, mais le Icar de la Torah, l'essentiel de la Torah, était à Babel. Donc, il a dit comme ça. Amarle Abaye le Rav Dimi. Abaye a raconté à Rav Dimi, il lui a dit, Bema'arava, Bema'izehire. Rav Dimi venait d'Israël, donc il a posé la question, il a dit, dis-moi, en Israël, à quoi ils font attention? Bien sûr qu'on fait attention à tout, mais il y a toujours une chose à laquelle on fait particulièrement attention. Vous avez dans les mots 5 lignes avant la fin de la page. Il lui a dit, en Israël, ils font attention à quoi? Alors, Amarle, il lui a répondu, il lui a dit, ils font attention, Be'arvere Ape. En Israël, ils font attention de ne pas faire blanchir la face les uns des autres. En d'autres termes, ils font attention à ne pas se faire honte les uns les autres. Ouais. En Israël, ils font attention à ça. Il y a des commentaires qui expliquent qu'à cette époque-là, en Israël, ils vivaient très longtemps. Et qu'en vérité, le fond de la question de Abaye à Rav Dimi, c'est qu'il lui dit, à quoi ils font attention, en d'autres termes, pourquoi ils vivent longtemps? Et que ça c'est ce qu'il y a derrière la question. Et que sa réponse aurait été qu'ils ont le sroud de vivre longtemps parce qu'ils font attention de ne pas se faire honte les uns les autres. Et il continue. D'Amar Rabbi Hanina, il dit parce qu'ils tiennent ça de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina vivait en Israël. D'Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina a dit, Akol Yordim le Geinom, Chutz Mishlosha. Tout le monde ira au Geinom, d'accord? Chutz Mishlosha, sauf 3. Alors la Gemara a dit, Akol Salkadatar. Quoi, tu es en train de me dire que tout le monde ira au Geinom, sauf 3, c'est pas possible. Seulement en vérité, c'est pas comme ça qu'il dit Rabbi Hanina. Et la Emat, seulement il faut dire, Kol ayordim le geinom olim. C'est ça ce que ça veut dire. Ce que Rabbi Hanina voulait dire, c'est que tous ceux qui descendent au geinom finiront par remonter du geinom. Chutz mishlosha, sauf 3, sheyordim ve'en olim, qui descendent et qui remonteront jamais. C'est-à-dire que la seule option qu'on leur donnera éventuellement sera de redescendre. Mais ils remonteront jamais du geinom pour remonter. C'est qui ces 3? Et donc c'est pour ça qu'on dit tout le monde descend au geinom, sauf 3, dans le sens, tout le monde descend, mais finira par remonter. En général, ça prend un an maximum. Sauf 3 qui, eux, ne remontent jamais. C'est quoi ces 3? Écoutez bien. Il dit, Ve'elouen, les voici. Abba al-Eshetish. Celui qui a des relations avec une femme mariée. Parce qu'avec une femme mariée, c'est infiniment plus grave qu'une femme, il y a des relations, donc, avec une femme mariée qui n'est pas sa femme, bien sûr. Ça, c'est le premier cas. Oui, deuxième cas, mais bien sûr. Alors. Non, je ne peux pas préciser quand même. Hein.
Non, mais si tu précises pas, on va pas.
Alors, Abba al-Eshetish, celui qui a des relations avec une femme mariée. Vous remarquez, on n'a pas parlé de Nida. C'est d'Averot très grave, tous les autres. Mais ça, c'est très grave. Abba al-Eshetish, celui qui a des relations avec une femme mariée. Ve'amalbin pene chavero barabim. Et celui qui fait honte à son ami. Et là, vous remarquez, qu'est-ce qu'on a rajouté? En public. Parce que. Finalement, très souvent, ce qu'on nous dit, ça ne lui fait pas vraiment honte, parce que tu sais que ce qu'on te dit, c'est vrai. Vous savez, en général, tu sais qu'on te dit, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait honte? C'est le fait qu'il y avait du monde autour. Et que le monde a vu comment on t'a rabaissé. Vous remarquez, barabim. En général, quand quelqu'un me blesse, il m'insulte, mais que ce n'est pas en public, je peux gérer la situation. Mais quand c'est en public, tout de suite, je rougis. Donc, deuxième cas, c'est celui qui va blesser son ami, donc qui va faire honte à son ami, barabim en public. Ve'amecha neshemra la chaveru. Troisième cas, c'est quoi? Celui, pas la shanara, amecha neshemra la chaveru, celui qui donne un surnom à son ami. D'accord? Alors, on verra plus tard, ça la Gemara va développer, c'est quoi un surnom? Du style le gros, le, d'accord?
Joe bras cassé.
Alors, maintenant sur ça, on verra plus tard dans le Shulchan Aruch qu'il y a beaucoup d'avis sur ça. Il y en a qui disent...
Beaucoup dans les pays Sfarad, ils donnaient beaucoup de surnoms hein, aux gens.
Alors, on va expliquer. D'abord, il faut que ce soit un surnom. Il faut que ce soit un surnom qui fasse du mal à la personne. D'après beaucoup d'avis, donc péjoratif, il faut que ce soit d'après beaucoup d'avis un surnom qui est autour du nom de famille de la personne. D'accord. Si, si, bien sûr, les prénoms, bien sûr. On va expliquer. Non, bien sûr, il y avait ça. Que le Icar, parce qu'on appelle ici Shemra. Shemra, c'est quoi Shemra? C'est un nom. Ça vient autour de son nom. D'accord, la Chavero à son ami. Alors, Gemara pose la question, elle dit, mais je comprends pas. Quelle est la différence entre le deuxième et le troisième cas? Le premier, je comprends. Relation avec une femme mariée. D'accord. Deuxième, tu me dis, celui qui a fait honte à son ami. D'accord. Troisième, tu me dis, celui qui donne un surnom à son ami. Bah, les deux et trois, c'est la même chose. Parce que si tu donnes un surnom qui lui fait du mal, bah, tu l'as fait honte. C'est quoi la différence? Réponse de la Gemara, écoutez bien. Grand ridouche. La Gemara a dit, Afalpi des dash be bishme. Même s'il a déjà été habitué par ce surnom. Et donc, du coup, ça ne le fait même plus rougir. Ça ne le fait même plus blanchir parce qu'il a déjà été habitué. D'accord? Il est habitué à ça. Mais concrètement, chaque fois qu'on lui dit, ça lui fait du mal. Il rougit pas parce qu'il est habitué. C'est-à-dire, son corps a été habitué à réagir à ça. Mais il a mal quand même. Donc, on a numéro 1, relation ferme interdite. Numéro 2, celui qui fait blanchir son ami. Numéro 3, celui qui blesse son ami, mais sans qu'il blanchisse parce que peut-être il est déjà habitué à ça. Dans les trois cas, ces trois cas, ils descendent au Guéhinnom, ils ne pourront pas remonter du Guéhinnom.
Donc, c'est irrattrapable.
Irrattrapable. En haut, irrattrapable.
Irrattrapable.
C'est grave, c'est très grave.
Les femmes mariées, enfin, ceux qui couchent avec les femmes mariées, rêve mutant, normalement, ça fait capara pour.
Non, ça n'a rien à voir, ça. Deux choses différentes. On n'est pas en train de. Il y a Guéhinnom en haut, tu crois que c'est fini, il meurt en haut, c'est fini?
Bah, s'il a fait
les trucs. Ah, non, pas du tout.
C'est difficile à comprendre pour le
C'est que ce qu'il a fait est tellement grave qu'il n'a plus rien à faire ici-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'en haut, il a pas son compte, tu crois que c'est fini, ça y est, on le tue, c'est fini? Très, très grave. Pour la Torah, c'est impardonnable, ça. Ok. Allez-y, oui. Non, c'est autre chose, ça. Une personne qui transgresse à Vodazara, il ira au Guéhinnom, mais il peut faire des choses sur sa robe. En haut, il ressort du Guéhinnom. Et que ces trois choses-là. Très grave, ce qu'on dit ici. Alors, regardez bien.
C'est qu'il y a aussi des qui disent, ceux qui parlent pendant la tfila.
Jamais on dit ça. Qu'il descend et il remontera jamais. C'est très grave, ça. C'est-à-dire, non seulement il va descendre, mais il remontera pas. D'accord? Pourquoi? Excusez-moi.
Oui,
fais attention, il a raison. Des mots très durs dans le Zohar.
C'est tellement profond.
Descendre et pas remonter?
La couche du Guéhinnom, c'est tellement profond qu'il ressort
dans le passage tout Israël. Il te dit par exemple, celui qui ne croit pas que la.
On parle du monde futur. On parle du monde futur, de Mashiach. Mais on ne parle pas de descendre au Guéhinnom et pas remonter. Ça veut dire qu'à la limite, éventuellement, il y a des gens qui peuvent être bloqués dehors. Ni Guéhinnom, ni Gan Eden. On dit qu'il y a des gens qui sont bloqués à la porte. Mais rentrer au Guéhinnom et pas sortir, c'est unique. On y va? Ah, c'est grave, ouais.
C'est pas ça. C'est quand même pas une horreur. C'est grave, d'accord. C'est pas l'horreur de l'humanité, c'est
ça. J'ai lu des Mefarshim qui disent qu'une personne comme ça, son tikkun devrait être de redescendre sur terre. Et on va le remettre, c'est-à-dire il peut négocier en haut, de demander à le remettre dans la même situation. On va faire redescendre les mêmes deux Neshamot, peut-être dans un corps différent, et on va s'arranger pour que les deux Neshamot se rencontrent encore une fois dans la même situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous des Gilgulim, qu'on soit clair. Donc aujourd'hui, tout ce qui nous arrive en vérité, très souvent, c'est une scène qui se reproduit. Pour la deuxième, troisième, quatrième fois, cinquième fois. Et à chaque fois, tu dis, on va voir si celui-là, il va la faire mieux que les quatre, cinq fois d'avant.
D'où les notions de déjà vu.
Mais le Guéhinnom, on n'a pas le choix.
On s'est peut-être déjà rencontré alors.
Ouais, c'était déjà rencontré. Ouais. Si on est là, c'est qu'un nos Neshamot. Peut-être en Babylone il y a 2000 ans.
Peut-être que t'es Chabad et toi t'étais et je t'apprenais, je te faisais des cours sur le.
Ça dépend comment tu définis les boules.
Je voulais te rendre les 30 livres sterling que je t'ai empruntés à l'époque de Romain Desbois.
Alors on y va. Dernière ligne. Amar Rabba Bar Bar Chana. Rabba, le petit-fils de Chana, a dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan.
Wow. C'est un géant.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit...
Ah, c'est avec toi, verso.
C'est verso, c'est verso.
Oui, il y a certains où c'est verso, mais c'est pas grave. Comme ça marchait pas bien, donc j'ai pas fait après verso. Alors, comme d'habitude... Ah. D'habitude, 8 heures.
Alors,
hein,
pourquoi
hein?
Qu'est-ce qu'il y a de moins spécial?
C'est alors,
c'est toujours une page.
Ah oui, premier mai,
non,
oui.
C'est pas toujours une page.
Alors, Amar Rabab, c'est bon? Alors, il a dit comme ça. Il a dit, donc, Amar Rabab Bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan. D'accord? Alors, oui, d'ailleurs, en passant, voilà, bon, si vous voulez, sur la question qu'on s'est posée, j'avais oublié de le faire, ça. Vous voyez, dans le Tosfot qui est à la droite de la page d'avant, non, mais ne revenez pas, je vais vous expliquer un petit peu à l'oral. Tosfot, il dit, on peut pas dire qu'une personne qui, c'est ce que je vous explique à l'oral, il dit, on peut pas dire qu'une personne qui descend au Gehinnom ne remontera jamais. Pourquoi? Parce que la Gemara dira plus tard que celui qui a des relations avec une femme mariée, yesh lo chelek l'olam haba. Il a une part au monde futur. Alors après, Tosfot, il commence à expliquer. Attendez, alors justement, Tosfot, il commence à rentrer dans les explications. Il dit, il y a des gens, d'accord, qui vont au Gehinnom et que le feu du Gehinnom ne peut pas les attraper. C'est un niveau, ça. C'est une personne qui va au Gehinnom, mais que le feu du Gehinnom ne l'attrape pas.
Touriste.
T'as des gens qui vont là-bas, mais que le feu du Gehinnom peut l'attraper. Travaille. T'as des gens qui sont limités, il dit, à 12 mois. D'accord? T'as des gens que c'est leur neshama qui brûle. T'as des gens que c'est que leur corps qui brûle, mais leur neshama, elle reste. Je vous dis les mots de Tosfot, hein. D'accord? Et donc, Tosfot, il dit, on peut dire que dans tout ça, il peut avoir des options, qu'en vérité, ce que la Gemara veut nous dire, c'est que celui qui, pour ces trois avérantes-là, c'est, il aura le Gehinnom le plus grave possible. Mais il continue avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que c'est évident que, au bout du compte, il finira par sortir. Alors, soit en redescendant en bas, soit, etc. D'accord? Ça, c'était le point de Tosfot, excusez-moi, j'avais oublié de préciser. Alors, je continue. Qui? Tosfot? Sur qui? La Gemara ou Tosfot?
Non, je pose juste la question.
Ça, c'est
une... Sur quoi,
Rabbi Hanina n'a pas donné sa preuve.
Oui, il n'a pas donné.
Rabbi Hanina n'est... Au moment où là, c'était Abaye qui a posé une question à Rav Dimi, qui lui a dit, raconte-moi quelque chose d'Israël. Quand et Rav Dimi lui a dit, il faut attention à ne pas faire honte les uns les autres. Et il lui a dit, là-bas, on tient ça de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a vécu plus de 500 ans en arrière, quand on va dans l'histoire. Donc, il n'était même pas là, Rabbi Hanina. Il n'a pas laissé sa preuve, mais c'est un enseignement qu'on a de Rabbi Hanina.
Rabbi Hanina, c'était...
Ah, c'est Rabbi Hanina, même tout ça. C'est pas un amora, ce Rabbi Hanina. C'est un enseignement qu'en Israël ont rapporté au nom de Rabbi Hanina. Bon, alors écoutez bien maintenant ce que Rabba Barbar Hana a dit au nom de... Barbar, donc petit-fils de Hana, a dit au nom de Rabbi Yochanan. Noach lo le'adam sheyavo al tzvek eshetish. C'est préférable pour un homme... Alors attention, on va expliquer ce qu'on va dire. Hein. Ne vous arrêtez pas là. Alors, Noach lo le'adam sheyavo al tzvek eshetish. C'est préférable qu'un homme... et des relations avec une femme, c'est un doute si elle est mariée, c'est mieux de faire ça que de faire honte à son ami en public. Quel rapport? De quoi on parle? De quoi cette histoire? Alors là, la Gemara a dit minalan. Hein, vous voyez, avant elle a pas demandé minalan. Hein. Elle dit minalan, ça veut dire tout. Tu me sors ça, c'est grave ce que tu me dis. Bon, avant tu me dis Gehinnom, on n'a pas été en haut, donc on sait pas. Tu me dis il descend, il remonte pas. Bon, je te crois. Mais là, tu me sors un truc, tu me dis ici-bas. Entre l'un et l'autre, je préfère avoir une relation avec une femme. C'est un doute si elle est mariée. D'abord, ça veut dire quoi, c'est un doute si elle est mariée? Demande-lui si elle est mariée. Tu fais ce que tu veux faire, après tu demandes si elle est mariée. C'est quoi ces histoires?
Ouais, hein, bah,
d'accord?
Si elle est alors, ou pas.
Alors, écoutez bien. Il dit, Mide Darash Rabba.
Ça peut être arrangeant.
En vérité, d'accord? D'où on apprend ça? On apprend ça d'une dracha que Rava avait fait. Des Darash Rava. Rava avait fait une dracha. Maï Dirtiv, comment comprendre le pasouk de David Ameller qui a dit, Uvetzelri, Samrou vene safu karou velo damou. Il dit dans ma côte, ça veut dire ceux qui étaient autour de moi, Samrou, ils se sont réjouis, vene safu, et ils se sont rassemblés autour de moi, ça veut dire en d'autres termes ils voulaient me faire du mal, karou velo damou, ils m'ont déchiré et ils n'ont pas trouvé de sang. Comme ça Rashi explique. Alors il dit de quoi il parle le roi David? Écoutez bien. Alors il dit Amar David ifna Kadosh Baruch Hu. Le roi David a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Galoui veyadoua lefanecha. C'est dévoilé et c'est connu devant toi. Ça veut dire que c'est évident pour toi, Kadosh Baruch Hu, qui connaît la vérité. Shi mayu mekarim besari. Que si on déchirait ma chair, lo ayadami shotet l'aretz. Mon sang n'aurait pas coulé par terre. On va faire tout de suite Rashi pour expliquer ce que ça veut dire. Velo, t'es pas seulement ça. Ça veut dire, en d'autres termes, ce qui veut dire, ils m'ont tué dans le sens que, ils m'ont sucé mon sang. Velo, t'es pas seulement ça. Et la filou besha shoski menegaim vaalot. Même quand on était au Bet Hamidrash, parce que David était le chef du Sanhedrin, même quand on était au Bet Hamidrash, et que on posait des questions qui n'avaient rien à voir avec le mariage. D'accord? Qu'est-ce qui se passait? Om Rimli, il me disait, David, Abal et Shetish Mitatobama. On parlait d'autre chose, on parlait des lois de plaie, etc., de pureté, d'impureté. Et pour me taquiner, il me posait la question, il me disait, David, quand, dis-moi, celui qui se marie avec, celui qui a des relations avec une femme mariée, mitato bema. Il faut, comment il faut le tuer? En d'autres termes, vous voulez lui faire une allusion? Toi, tu as eu une relation avec, d'accord? Voilà. Va ani omer lahem. Et moi, je leur répondais, David Ameller qui reste pas sans répondre. Va ani omer lahem. Et moi, je leur répondais, mitato bechenek. Celui qui a des relations avec une femme mariée, mitato bechenek, sa mort sera par la strangulation. Veyesh lochenek la mama. Mais par contre, au moins, il aura une part au monde futur. D'accord? Aval, mais, amalbin bne chavero barabim. Celui qui fait honte à son ami en public, Elochelek, le Olam Haba, lui, il n'aura pas peur, mon futur. Tac. D'accord? Alors maintenant.
C'est bien placé.
Maintenant, attendez. Bon, la phrase était belle, mais il nous a endormi, parce qu'on n'a pas compris quel rapport avec le doute de Chatish.
Exact.
Pourquoi c'est un doute? Alors, pour ça, il faut faire Rashi. Alors, on va prendre dans Rashi la colonne de droite, et la troisième grande ligne en haut. Quelle est Darash Rava? Comme la Drasha que Rava a fait. Quelle est la Drasha? Quel est le fond de la Drasha de Rava? Des Tova Maase chez David ou Bathsheba, que l'action de David et Bathsheba est meilleure, Michel Ahem, que l'action des autres qui est en train de lui faire honte. Maintenant, pourquoi c'est Sfek Keshatish? Pourquoi c'est un doute d'une femme mariée? Elle était mariée, cette femme. Alors écoutez ce qu'il dit Rashi. Il dit, Shayot c'est le Milchemet Bet David, celui qui partait en guerre, la guerre de David. Alors, il doit donner Get Kritut Kotev Leishto. Il devait donner un Get à sa femme. Pourquoi? Parce qu'on savait que statistiquement parlant, il y avait des gens qui revenaient pas. Ou bien, il y avait des gens qui étaient pris en captivité que pendant après des dizaines d'années, on savait pas si c'était en vie. Ils disparaissaient. D'accord? Pas comme aujourd'hui, même aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des gens qui disparaissaient, c'est fini, tu sais même plus s'il est vivant ou pas. Or, le problème, c'est que tant que la personne est vivante, sa femme ne peut pas se remarier. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient un guet. Ils écrivaient un guet à leur femme. Almenat, à condition, chez Imyamut, chez Teme Goroshet Meharchav. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'était pour dire, si je reviens pas, c'est la Gemara qui explique là-bas, si je reviens pas, mon guet est là. Mais c'est aussi dans le sens que, imaginez que, en général, qui c'est qui va à la guerre? C'est les jeunes. Très souvent, les jeunes n'ont pas d'enfants. Donc ça veut dire que si le mari y meurt, la femme avec qui elle devra se marier, avec le beau-frère, elle n'a pas envie du beau-frère. Mais elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Donc la femme dit à son mari, lui dit, écoute, je t'en prie, vas-y, même si tu reviens pas, je veux pas de ton frère. Je veux pas marier, elle veut pas se marier avec son frère. Donc, c'est comme ça.
Je ne fais pas le guet alors.
Donc, c'est pour ça qu'il fait un guet, im yamut, comme ça, s'il va mourir, j'étais me goreshet me archav, qu'elle sera divorcée depuis maintenant, velot isakek le yabam, et donc du coup, elle n'aura pas besoin de faire le yiboum. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Rashi?
C'est un vrai divorce?
Justement, j'y arrive. C'est un vrai divorce.
Pas possible.
Non, c'est un divorce.
C'est un divorce.
À condition qu'il meure.
D'accord, à condition qu'il meure. C'est-à-dire s'il meurt rétroactivement.
Mais si on...
Alors écoutez bien.
Normalement, le guet, c'est un document qu'on doit faire écrire justement.
Mais on peut lancer un guet rétroactivement. C'est-à-dire, par exemple, je peux dire une femme, je te donne ton guet. Le problème, c'est que le guet doit marcher maintenant. C'est-à-dire, quand je donne le guet à la femme doit divorcer depuis maintenant. Quelle est la technique qu'ils ont trouvée? Je donne le guet à la femme, je lui dis, si dans un an je meurs, le guet aura démarré depuis maintenant. Rétroactivement.
Alors, c'est une combine, bon. Ça veut dire que quand David dit, il a été avec Bathsheba.
Alors attendez, justement, j'y arrive. Donc, on va lire dans les mots de Rashi. Donc il dit Rashi. Vechol otan ayamim. Donc imaginons par exemple que on va partir en guerre le 1er janvier. D'accord? Et que pendant 4 mois on est en guerre. Fin avril, on apprend qu'il est mort. Entre janvier et avril, cette femme, elle est divorcée ou pas?
Oui.
Elle.
Oui, avec
le document. Oui et non. Oui et non, c'est un safek. Parce que si son mari ne meurt pas, elle n'est pas divorcée. Si son mari va mourir, rétroactivement, elle sera divorcée. Donc, elle est safek.
Mais il est mort, donc.
D'accord? D'accord. Mais pendant, le problème, c'est que David a eu des relations avec cette femme pendant cette phase.
Avant que
sa mort.
Ah, bah oui, mais là, il y a un doute. Mais on aurait pu dire safek si elle est veuve.
Mais
non, mais le mec, il est mort au mois d'avril, la fille va
venir. Il a eu une relation en mars.
Mais il est revenu entre temps.
Il est mort.
Non, il est revenu entre temps.
Il est mort.
Il est revenu au palais.
Pour rien, il est mort.
Il est mort. Pas
du tout, il est mort, il l'a tué au front. Il est mort au front.
Oui, mais c'est après. D'abord, il a ramené David.
Il y a eu des relations quand il était en guerre. Il est mort, regarde, c'est la histoire. Jamais, il est mort. Il est revenu mort. Bien sûr, oui.
Non, il a eu des relations.
Il est mort pendant la période dans laquelle ils ont eu des relations pendant la période que Uriah était en guerre.
Oui.
Uriah est mort à la guerre, donc ça veut dire que quand il est revenu.
Non, c'est pas pendant cette guerre-là qu'il est mort. Il est parti à la guerre. David a eu des relations avec Bathsheba. Il a rappelé Uriah pour qu'il aille voir sa femme.
Oui, mais il avait déjà écrit à le guet. Non, c'est obligé, c'est le pchat, ça. D'accord, c'est la même guerre. Il a eu des relations alors qu'il avait déjà donné ce fameux guet, mais un guet misafek.
Bon, de toute façon, il est parti à la guerre, mais il était guerre. Hein.
Alors, on y va.
Faut le savoir.
Donc, ça, c'est la réponse de, David Ameller.
Finalement, non. Il n'y a pas de doute.
Si. Parce qu'au moment où il a eu des relations...
Si on est sûr que la relation a eu lieu alors qu'il n'était pas encore mort...
Oui, mais le problème, c'est que quand plus tard Uria va mourir, le guet sera rétroactif. Donc ça veut dire qu'au moment où il a eu des relations, elle était déjà divorcée.
Non, mais c'est une combine de juristes.
C'est vraiment...
Les avocats, ils acceptent ce genre de combine.
C'est une combine de juristes.
Excuse-moi. Vis-à-vis de Dieu, je te parle.
Ouais. D'accord, ouais.
Il n'est pas mort, le
gars. Le guet, c'est quoi, pardon?
La personne disparaît, oui. On ne sait pas où elle est.
Oui. Ou il disparaît, ou bien s'il meurt... Et grâce à ça, ça va la sauver du hiboum.
Enfin, ils sont légitimes.
D'accord.
Si, donc c'est...
Ça va le sauver du hiboum. Si. Non. Rachid nous dit que même s'il meurt et qu'il revient, d'accord, ça sauve la femme du hiboum. Parce qu'on va dire qu'en vérité, rétroactivement, elle était divorcée.
D'accord. Mais le principe est là. Donc, c'est exactement la même chose que si quelqu'un a disparu, parce que comme on ne saura jamais s'il est mort ou pas,
oui,
on va autoriser sa femme à se remarier. Parce que, mais elle sera toujours en double des divorces.
Non. On met des clauses. Il y avait des clauses. On disait par exemple, si un mois après la fin de la guerre je ne suis pas revenu, le guet commencera rétroactivement depuis le moment où je l'ai donné. Il y avait des clauses. C'est-à-dire que le mari est d'accord de ça.
Pourquoi ça devrait commencer rétroactivement?
Parce que, très bonne question, parce qu'on l'a dit tout à l'heure.
Commence au moment où
non,
il meurt, où
très bonne. Parce que le problème, c'est que le guet doit être effectif depuis le moment où on l'a donné. Sinon, il n'est pas caché.
Il est caché au moment où il est donné.
Mais il est assorti d'une condition.
Moi, j'ai entendu que Rabbi Trata.
Que
ça a été décidé qu'il a fauté.
Non, justement. Non,
justement.
Dans la série, celui qui dit.
Ah, Brachot. David Marbrachot. Dav Zain. Elle dit tout celui qui dit David Rata et Noé Latoé.
C'est bon. C'est Rabbi Yehuda.
C'est Rabbi Yehuda.
Du roi David, on l'a dit de tuer ça.
Évidemment qu'il le défend. Évidemment qu'il le défend.
J'ai entendu ça, moi.
Honnêtement, si vous posez la question, moi je trouve que c'est quelque chose de mystique. Ça veut dire que David Ameler, il avait une histoire de Nechamot, mais que
premier...
dans le pshat, c'est très compliqué à expliquer.
Je rappelle qu'il est mort, bon, le premier.
Dans le pshat, c'est gris, c'est pas clair. C'est comme l'histoire de Yehuda et Tamar. Dans le pshat, c'est pas clair.
J'ai une question. On a tous apprécié la réponse du roi David.
Oui.
Là.
D'accord.
Mais finalement, c'est à peu près le même effet. Parce que lui. C'était le deuxième cas, le troisième cas, c'est-à-dire tu es habitué au fait qu'on te dise ta faute, on te répète ta faute.
Oui.
Mais lui, pareil, hein, sa réponse.
Non, apparemment David Ameler est rentré dans le deuxième cas, parce que c'est pas un surnom qu'on lui a donné, c'est qu'on lui a fait honte physiquement. On s'arrête là pour aujourd'hui, on continuera après.
On lui a dit qu'une seule fois ça.
Non, mais chaque fois ça le faisait honte. Chaque fois ça le faisait honte.
Troisième cas.
Parce que David Ameler a dit si on me coupait, on n'aurait pas trouvé du sang. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle veut blanchir.
C'est que la réponse, elle est meurtrière aussi.
Non.
Les autres avaient de quoi.
Non, il essaye.
Encore plus.
Pas du tout. Il essaye de leur expliquer. Il leur dit arrêtez-vous, arrêtez de m'embêter. Ce que vous faites, c'est plus grave que ce que je fais.
C'est défendu.
Maintenant, du coup, j'ai pas eu le temps. On fera la semaine prochaine. Je voulais arriver parce que c'est ça le sujet qu'on voulait arriver aujourd'hui. L'histoire de la femme. D'accord. Blesser sa femme. Quand il faut écouter sa femme. Quand il faut pas écouter sa femme. Bon, Baruch HaShem, on a bien développé.
Elle nous pousse à bout. Elle nous pousse à bout.
Rabotai, ça c'est mardi prochain. Ne ratez pas le cours mardi prochain. Voilà. Preview pour la semaine prochaine.
C'est un jour férié le mardi prochain?
Non, c'est mercredi. Normalement, c'est mercredi, on l'a décalé à mardi.
Il y a les circonstances atténuantes ou pas?
Il y a les faire étroites.
Non, mais pour madame.